Alors, du coup, c'est un film qui s'appelle Une histoire populaire américaine. On va pas le regarder en entier, on va projeter quelques chapitres qui sont au centre du film. Donc c'est sans queue ni tête. Et c'est un film qui a été fait à partir d'un livre du même nom, de Howard Zinn, qui est un historien américain qui a fait beaucoup, enfin un gros travail justement sur l'histoire populaire américaine, qui est très peu connu. Et c'est un bouquin qui a été un immense succès en fait. Et le film est réalisé par Daniel Mermet, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un homme de radio français, très intéressant, qui a fait beaucoup, qui a eu une émission pendant très longtemps sur France Inter, pendant 25 ans, qui était super, où ils allaient sur les grèves, ils allaient dans les trucs sociaux, c'était vraiment très très chouette. Et puis du coup, il a fait ce film-là à partir du bouquin de Howard Zinn, avec des interviews de Howard Zinn. Et donc du coup, c'est pas de la propagande IWW, ni le bouquin, ni le film, mais on a trouvé qu'il était intéressant parce qu'il parle très bien de la période du début des IWW, et puis du 1er mai aussi, qu'est-ce que c'est l'histoire du 1er mai pour ceux qui ne la connaissent pas. Et après le film, nous on s'est un petit peu partagé une petite présentation rapide de qu'est-ce que c'est devenu après cette période, cette espèce d'âge d'or comme ça entre 1905 et 1920-30. Qu'est-ce que c'est devenu après, puis qu'est-ce que c'est maintenant, puis qu'est-ce qu'on fait en Suisse et tout ça. Donc voilà.
En 1900, 1% des Américains détiennent 45% de la richesse nationale. C'est le temps des barons voleurs, super-héros du capitalisme. Carnegie, Vanderbilt, J.P. Morgan, John Davison, Rockefeller, la plus grande fortune de l'histoire, jusqu'à 190 milliards de dollars actuels, trois fois la fortune de Bill Gates. Et de quel droit ? Le droit divin et la sélection naturelle. Il le dit, J.D. Rockefeller. La croissance des grands groupes n'est que la survie de ceux qui sont les plus aptes. C'est la façon de faire de la nature et c'est une loi de Dieu. Son collègue, Carnegie, le roi de l'acier, est tout à fait d'accord. Carnegie nous dit, la richesse concentré par quelques-uns, sert bien plus la cause du progrès que lorsqu'elles sont émiettées en salaire destiné à faire vivre la multitude. Quant à l'ami de Carnegie, Frick, oui, il s'appelle Frick, Henry Clay Frick, un autre baron voleur, qui affirme « J'ai les moyens d'acheter la moitié de la classe ouvrière américaine » et de lui ordonner de massacrer l'autre moitié. Et M. Frick ne plaisante pas. La lutte sociale se développe, avec des milliers de grèves partout, jusque chez lui, et ça ne lui plaît pas. En 1892, à Homestead, il engage 300 agents de Pinkerton. Pinkerton, la fameuse agence de détective qui s'infiltre parmi les ouvriers pour provoquer les flics et briser les grèves. Monsieur Frick constitue une petite milice patronale qui tire à la mitrailleuse sur des travailleurs en grève dans la nuit du 5 juillet 1892. 16 morts, dont un enfant parmi les ouvriers. Alexandre Berkman est un militant communiste et libertaire juif russe de 22 ans. C'est le compagnon de la fameuse Emma Goldman, que le président américain désignera plus tard comme la femme la plus dangereuse d'Amérique. Alexandre Berkman, donc, pour venger les ouvriers qui se sont fait tuer, rend une petite visite à M. Frick. Deux balles dans le cou. Frick est grièvement blessé, mais au bout d'une semaine, il retourne au bureau. Berkman, quant à lui, est condamné à 22 ans de prison. Comme les autres barons voleurs, M. Frick se fera une image de mécène et de bienfaiteur de l'humanité en collectionnant des Rembrandts, des Renoirs, des Watteau. Chers amis nouveaux riches, vous avez fait des milliards avec la sueur et la santé des pauvres. Vous ne voulez pas payer d'impôts? Et en plus, vous voulez qu'on vous aime. Mais c'est possible. Faites une fondation. Amis riches, votre fondation va vous permettre de mettre votre fortune à l'abri de l'impôt et de vous afficher en donateur magnifique. Vous êtes le roi de la saucisse. Vous voilà Médicis. Dans le superbe musée de Monsieur Frick à New York, vous avez peu de chances de tomber sur les photos de Jacob Riis. Photographe pour la presse populaire dans les années 1880, avec force, Jacob Riis a montré les taudis et les bas-fonds de New York. Comment vit l'autre moitié, c'est-à-dire la moitié des habitants de la ville? Jacob Riis faisait partie des journalistes que Theodore Roosevelt appelait « muckrakers », c'est-à-dire les fouilles-merdes, ceux qui dénonçaient la corruption, la violence, le gangstérisme des tout-puissants patrons des grands trusts, les grands barons du chemin de fer, de la viande ou de l'acier. Combien d'habitants de Chicago se souviennent du mois de mai 1886 et les journées d'un violent combat dans la guerre sociale? Pour Howard Zinn, c'est ici que fut écrit un chapitre fondateur dans l'histoire des travailleurs du monde entier. Nous sommes à Haymarket Square avec Tim Yeager du syndicat national automobile et Matt Muchowski du IWW de Chicago. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire.
La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures.
À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, Haymarket Square.
C'était une journée ensoleillée. Mais Lucy et Albert Parsons étaient venus avec leurs enfants. Chacun avait mis ses plus beaux habits. Et la police, qui était aux ordres des capitaines de l'industrie, cherchait une occasion d'attaquer les manifestants. Ailleurs dans le pays, certains cortèges des manifestants ont été attaqués par la police. Et ici, à Chicago, où la manif était bien organisée, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et donc ça s'est très bien passé. La foule est ensuite venue vers ici, à cet endroit, et les orateurs sont montés sur une charrette pour s'adresser à la foule.
Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe? On n'a jamais su. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, la fameuse agence de détective privé qui employait déjà plus de 10 000 agents au service du patronat et dont les agents savaient s'infiltrer parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation.
Ça a été le prétexte pour une attaque à travers tout le pays contre le mouvement ouvrier. Oui, ici à Chicago, la police a fait des descentes dans les locaux syndicaux. Ils ont passé à tabac les ouvriers encore en grève pour la journée de 8 heures.
Incapable de trouver les coupables, la police arrête les syndicalistes qui ont organisé le meeting. Aucune preuve contre eux. C'est une parodie de justice. En réalité, c'est bel et bien pour leurs idées qu'ils sont condamnés à la peine de mort. L'un d'eux, un jeune charpentier, Louis Ling, se suicide en prison avec une cartouche de dynamite. Il a 21 ans.
C'est un procès pour l'exemple. On a ressorti tous leurs écrits sur le mouvement ouvrier et l'anarchisme comme preuve à charge.
C'était une exécution publique?
C'était sur invitation. Et ceux qui étaient invités, c'était les capitaines d'industrie, les riches et les puissants. La famille McCormick était invitée, c'est-à-dire les propriétaires du journal qui est aujourd'hui le Chicago Tribune. Lorsqu'un journaliste complaisant a demandé à un des spectateurs pourquoi il était venu assister à cette exécution, celui-ci a répondu « Je suis venu assister à la mort du mouvement ouvrier ».
Quatre seront pendus le 11 novembre 1887. Auguste Spies, Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel. Conséquence de cet événement à travers le monde, en 1889, à Paris, le 1er mai sera adopté comme journée de la lutte pour l'éditeur. La lutte pour la journée d'éditeur, c'est la reconnaissance du droit de vivre en dehors du travail. Mais c'est seulement le 23 mai 1919, après 4 années de sacrifices dans les tranchées, que les travailleurs français obtiendront la journée de 8 heures, le 1er mai sera désormais chômé. En 1893, les martyrs de Haymarket seront pardonnés par le gouverneur progressiste de l'Illinois, John P. Atgeld. Il accorde sa grâce aux 3 autres syndicalistes toujours en prison.
Il a dit « Oublions tout ça ».
Il
faut maintenant gracier ces 3 hommes et laissons-les vivre leur vie.
Sur l'échafaud, la corde au cou, l'un des martyrs, Auguste Spies, avait déclaré « Le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Tout près de ce monument, au cimetière Forest Park, près de Chicago, parmi les grandes figures des luttes progressistes, repose Emma Goldman, une des héroïnes de Howard Zinn.
She was an anarchist, a feminist, a labor organizer. She was imprisoned many times. And she opposed war. And she became famous as a speaker all over the country. Yeah, finally, during World War I, because she opposed World War I, she was put in jail, and then after the war, she was deported, sent back to her homeland, to Russia.
Emma Goldman était arrivée aux États-Unis en 1885 à l'âge de 16 ans. Elle fut de toutes les luttes, et notamment les luttes des femmes. Emprisonnée à plusieurs reprises pour antimilitarisme, incitation à l'émeute ou défense du contrôle des naissances. Elle avait son propre journal, Mother Earth. Et en 1921, 4 ans après la révolution bolchevique, elle écrivit toute sa désillusion sur cette révolution. Et en 1936, elle est en Espagne pour soutenir la révolution sociale. Elle meurt à Toronto en 1939, mais elle a voulu être enterrée près de ceux qu'on appelle les martyrs de Haymarket, ici à Chicago.
La tombe d'Emma Goldman, avec des fleurs, avec des pierres posées au pied de sa tombe, c'est la tradition juive. Et puis de ce garçon, du syndicat IWW qui vient de Saint-Louis en pèlerinage ici. Et il a laissé un petit badge de son syndicat. Il a laissé une pomme. Tu vois, la pomme rouge. Il avait ça dans son sac. Elle vient de Saint-Louis, la pomme, en hommage à Emma Goldman, 1869-1939. La liberté ne descend pas vers le peuple. Le peuple doit s'élever lui-même vers la liberté.
Quand Emma Goldman entend l'histoire du massacre de Haymarket, sa vie bascule complètement. Comme beaucoup de militants de sa génération d'ailleurs, Howard Zinn, toujours optimiste dans ses analyses, y voit la preuve que les luttes, même les plus dramatiques, jouent un rôle important dans la prise de conscience et la formation des générations suivantes. Pour Howard Zinn, c'est ainsi qu'avance la lutte des classes et le progrès social. Pour qu'une histoire résiste aux effacements de la mémoire et parvienne jusqu'à nous. Dans son histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn raconte la grève héroïque des ouvriers et des ouvrières du textile à Lawrence, dans le Massachusetts, en 1912. L'histoire de Bread and Roses.
1912, Lawrence, Massachusetts, was an unusual event in the history of labor struggles in the United States. Unusual because it followed a whole series of strikes and struggles which were lost by the workers. In Lawrence, Massachusetts, the workers won their strike, even though the workers were poor immigrants, women, and divided by a dozen languages. But they were helped by the labor union, IWW, Industrial Workers of the World, which believed in bringing all workers together.
En 1905, à Chicago, les syndicalistes, anarchistes et socialistes fonde l'Industrial Workers of the World, ou IWW. Le IWW, c'est par exemple Mother Jones. Elle est de toutes les luttes des mineurs dans tout le pays. Elle soutient les femmes contre les briseurs de grève. Elle soutient les enfants exploités dans les usines, ou organise des grandes manifs, des grandes marches, jusque sous les fenêtres des grandes familles bourgeoises et puritaines. Le IWW, c'est aussi Eugène Debs. Eugène Debs, en 1894, est jeté en prison pour avoir participé à la grève de l'usine des wagons Pullman. À plusieurs reprises, Eugène Debs se présente à l'élection présidentielle américaine. Il y a aussi Big Bill Haywood, redouté par tous les patrons, surtout les patrons des mines d'argent, dont il dirige le syndicat. Dès la première séance du IWW, Big Bill Haywood prend la parole. Camarades, nous sommes ici pour rassembler les travailleurs de ce pays au sein d'un mouvement dont l'objectif est de libérer la classe ouvrière de l'esclavage du capitalisme. Le IWW est aussi le syndicat des hobos, ces ouvriers agricoles, travailleurs itinérants qui voyageaient de façon plutôt économique. En 1912, lors des grandes grèves historiques de Lawrence, l'Industrial Workers of the World compte déjà 50 000 membres. On les appelle les Wobblies. Voilà le site de Lawrence un siècle plus tard. Par ce fleuve, le coton des esclaves noirs du Sud arrivait pour être travaillé par les esclaves salariés du Nord dans l'une des 34 usines de l'American Woolen Company. En 1912, cette usine était la plus grande du monde. Des travailleurs, surtout des travailleuses, venaient de toute l'Europe, de 25 pays, jusqu'à 30 000 ouvriers au total. Tous espéraient vivre mieux, tous avaient rêvé d'Amérique. Surprise, au milieu des bâtisses fantômes, voilà un petit musée modeste, sans beaucoup de visiteurs, et dont Jim Beauchesne est l'animateur.
C'était là-dedans que les gens travaillaient.
Yes, the mills right across the canal.
Toutes ces usines qu'on voit de l'autre côté de ce canal étaient à l'époque des filatures, et c'était au moment de l'apogée industrielle de Lawrence. Qui correspondait au moment de la grève, il y avait plus de 30 000 ouvriers qui travaillaient ici. C'était très difficile, très dur, il faisait chaud, la poussière, les machines étaient dangereuses, les conditions étaient vraiment très dures pour les ouvriers. C'était essentiellement l'industrie textile au début du coton, et puis au tournant du siècle, c'est devenu plus de la laine. Les usines du Nord avaient des relations très très étroites avec les plantations du Sud.
Au Sud, on exploitait dans les champs de coton, on exploitait les Noirs, et ici, on exploitait les immigrants.
Very much so, and those comparisons were made at the time.
Oui, c'était même d'abord un parallèle qui était déjà fait à l'époque, et en particulier un parallèle qui était fait par les esclavagistes. Ils disaient, comment ça, vous nous critiquez d'exploiter les Noirs dans les champs de coton, mais regardez ce que vous faites, vous, avec tous ces immigrés, dans les usines du Nord. La première vague d'immigrants ici à Lawrence, c'était les Irlandais qui fuyaient la famine qu'il y avait eu dans les années 1840, la famine des pommes de terre en Irlande. Et après, il y a eu des vagues supplémentaires et successives d'immigrés, comme par exemple mes ancêtres à moi qui venaient du Canada français, qui étaient donc des Québécois qui sont venus s'installer ici. Et puis après, le gros des troupes, le gros des migrants sont arrivés à la fin du 19e, début du 20e siècle, de tous ces migrants d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est qui sont passés par Ellis Island à New York avant d'arriver ici.
Le salaire, 9 dollars par semaine, permettait juste de quoi faire la soupe et de payer le loyer qui, bien sûr, revenait au patron. Selon une étude de l'époque, la mortalité des enfants de moins de 6 ans était de 50%. À Lawrence, à partir de 1911, les patrons ont appliqué les géniales idées de Frederick Taylor, le taylorisme. Plus besoin d'ouvriers qualifiés, productivité, compétitivité, on peut accélérer les cadences. Chacun est remplaçable. Tout de même, en 1912, une loi fédérale limite le travail à 54 heures par semaine pour les femmes et les enfants, au lieu de 56 heures jusque-là, donc 2 heures en moins, en gardant le même salaire. Mais à la fin du mois de janvier, en touchant leur paye, les ouvrières découvrent que la maigre augmentation n'est pas payée. Les patrons ne veulent rien savoir. C'est la révolte, c'est la grève spontanée. En quelques jours, elles seront 1000, 5000, 10 000 en grève.
Quand la grève a débuté, c'était une toute petite minorité qui était syndiquée dans la UWW. C'était principalement d'ailleurs des Italiens, des ouvriers italiens qui avaient amené avec eux leur culture politique.
Pour soutenir cette grève spontanée, le syndicat IWW envoie des jeunes militants. Les plus fameux sont Arturo Giovannitti et Joseph Ettore. Ils sont très jeunes. Joseph a 27 ans, il parle italien, polonais, hongrois et yiddish.
Across the canal from us right now is part of the Pacific Mills, which was...
Voilà, ça c'était Pacific Mills, l'usine Pacifique, qui était une des très grandes compagnies qu'il y avait à Lawrence à l'époque.
And this is the site of one of the famous episodes early in the strike.
Et en fait, c'était une scène, il y a eu lieu une des scènes célèbres du tout début de la grève, c'est quand les ouvriers arrivaient en manifestant ici, et que depuis l'autre côté des murs, on les a répliqués avec des, en plein hiver, en les arrosant d'eau avec les lances à incendie. Et comme c'était un hiver glacial, l'eau gelait aussitôt sur eux.
Les grèves, il y en a partout, mais celle-ci devient exemplaire. Les patrons et les pouvoirs locaux s'affolent, le clergé, les notables. Le gouverneur fait appel à la milice locale, puis à la garde nationale.
So during one of the confrontations between strikers and police,
pendant l'un de ces affrontements entre grévistes et police, au croisement là-bas, au bout de l'usine, une jeune ouvrière italienne qui s'appelait Annie Lapizzo a reçu une balle et a été tué. Ettore et Giovannitti, qui étaient ces deux leaders syndicalistes, avaient été accusés de complicité de meurtre de cette jeune ouvrière, même s'ils n'étaient même pas sur les lieux du crime au moment où elle a été tuée. Parce qu'ils étaient considérés comme complices, parce qu'ils auraient, soi-disant, c'était la version officielle, encouragé les gens à protester et à être violents dans la rue, ce qui aurait conduit à la mort de cette femme.
L'hiver 1912 est très rude. La nourriture se fait rare du côté des grévistes. On s'inquiète pour les enfants. La solidarité se renforce. 400 familles dans le pays se disent prêtes à accueillir des enfants.
Yeah, the strike became a national and international cause.
La grève est vraiment devenue une cause nationale, voire même internationale. Et c'est à ce moment-là qu'on a proposé de transporter les enfants des grévistes chez des sympathisants dans d'autres villes pour les héberger.
And they were helped by the solidarity of the socialist movement, because when they were starving in this winter of the strike and did not have enough food for their children, socialist newspapers advertised for families that would take care of the children of Lawrence, and that enabled them to continue the strike.
Le 10 février 1912, 119 enfants quittent Lawrence pour New York. À l'arrivée à la gare, les enfants de Lawrence sont accueillis par des ouvriers du syndicat qui entonnent l'Internationale et la Marseillaise. À Lawrence, la répression a été si violente qu'une commission est créée devant le Congrès des États-Unis. Le témoignage de Camilla, une jeune ouvrière de 12 ans dont le cuir chevelu a été arraché par une machine dans une filature, aura pour effet d'amener un règlement du conflit.
As we come marching, marching, a number of women dead.
The stories of these struggles are not told in American schools or in American textbooks. Most Americans, even workers today, have never learned that history. For instance, I was in Lawrence, Massachusetts a few years ago. I found that the people in Lawrence, Massachusetts did not know about the history of that strike. That's why I considered it very important in my book to tell the story of these labor struggles in American history.
Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire, vous, personnellement?
My personal family history, as I mentioned,
c'est lié à mon histoire familiale personnelle.
Et
ce grand-père qui, à l'époque, s'est tenu à l'écart et ne s'est pas impliqué.
Et qui dans cette ville pourrait nous chanter la chanson?
Okay. Bread and roses. As we go marching, marching in the beauty of the day. A million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses.
As we go marching, marching, we bring the praise of
que vous venez de voir, nous l'avons présenté un soir à la Bastide Rouérou, dans le Tarn, en France. Et dans le public, une dame, très courtoisement, nous a fait observer qu'à la même époque, il y avait eu la même histoire dans le Tarn, en France. En 1909, la grève des déléneurs à Mazamet, puis à Groyer. À Groyer, 147 jours de grève. Les femmes, pour la plupart, payé moitié moins que les hommes. Ateliers puants, produits gravement toxiques, grève donc, grève longue et assiette vide. Alors, à Groyer, on a inventé les soupes communistes. Et les enfants ont été recueillis dans des familles à travers le pays. La même solidarité qu'on vient de voir avec les enfants accueillis à New York. En Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis, notre histoire commune, c'est la révolution industrielle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes souffrances et les mêmes résistances. Mais il y avait aussi des résistances particulières, des formes d'opposition originales. Au MIT à Boston, nous voilà avec Noam Chomsky.
This region where we are now, the origins of the Industrial Revolution, there is a rich literature from the mid-19th century of working by working people, people working in the textile mills, and, you know, artisans and others. They had their own newspapers. They were running them. They were eloquent, and they had very interesting material in them. There was no European influence. This is just developed indigenously. They bitterly condemned the industrial system, which it said was crushing them, taking away their culture, their dignity, their freedom. They said that people who work in the mills should own them. They opposed wage labor as an attack on elementary integrity. And they were very wide, and those views were very widely accepted. So, for example, Abraham Lincoln described wage labor as not very different from slavery. The only difference is with wage labor, it's not permanent. Slavery, it's permanent. That's taken a lot of effort to drive these thoughts out of people's minds, because those are very natural ideas. In fact, if you look back at the United States, the United States had a very violent labor history, much more so than Europe. And hundreds of American workers were being killed when nobody was being killed in Europe. And when there were developments of socialism and democracy, they were crushed by force.
Lutte écrasée ou victoire oubliée. Si la modeste victoire de Lawrence a été gommée de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un très mauvais exemple aux yeux de l'oligarchie. La doctrine qui fait foi dans la famille Rockefeller, c'est « il ne faut pas leur laisser croire que la révolte, ça peut marcher ». J.D. Rockefeller, Rockefeller Jr., celui qui parachèvera le Rockefeller Center de New York, aura l'occasion d'appliquer la doctrine familiale en 1914 à Ludlow, Colorado, où la répression contre les mineurs en grève est impitoyable. Le massacre de Ludlow fut d'ailleurs le premier sujet de recherche choisi par Howard Zinn quand il a commencé ses études d'histoire. Colorado. 11 000 mineurs travaillent pour John D. Rockefeller. Des immigrés de tout poil, des Grecs, des Italiens, des Serbes, des Noirs. Boulot dangereux, salaire misérable. Les mineurs s'organisent pour se défendre, mais un délégué syndical est abattu par la milice patronale. Les mineurs se mettent en grève. Ils ont la visite de Mother Jones, recherchée par toutes les polices à 80 ans. Elle a réussi à venir clandestinement. Elle soutient les grévistes jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée, emprisonnée et expulsée de l'État du Colorado. Rockefeller fait alors appel à une milice privée, équipée de carabines et de fusils mitrailleurs. Mais voilà qu'arrive la garde nationale du Colorado. Les mineurs sont soulagés. La garde nationale vient à leur secours. Ils l'accueillent avec des drapeaux et des cris de joie malgré le froid et la neige. Mais la garde nationale se retourne contre eux et charge ouvriers, femmes et enfants. Et malgré tout, les mineurs ne lâchent rien. Ils creusent des trous et des tranchées pour se protéger des tirs. Un jour, enfin, la direction propose de négocier, mais lorsque le porte-parole syndical arrive au rendez-vous, il est froidement abattu par les tueurs de Rockefeller. Le soir, la garde nationale donne la charge et met le feu au campement. Le gouverneur ordonne de tirer. 13 morts, femmes, enfants. Au petit matin, sous une plaque d'acier qui recouvre une fosse, on découvre les corps recroquevillés et carbonisés de 11 enfants et de femmes. Le syndicat des mineurs lance un appel aux armes. 300 mineurs en armes venus des mines alentours se dirigent vers le Ludlow, coupent les fils de téléphone et de télégraphe et se préparent au combat. En solidarité, les chauffeurs de train refusent de transporter les renforts de militaires envoyés sur le Ludlow. Il y a aussi des militaires qui refusent d'y aller. Sur place, les mineurs en armes attaquent. Ils saccagent tout. Ils font exploser des puits de mines. D'autres syndicats dans le pays envoient des ouvriers en armes. Partout à travers le pays, des manifestations, des soutiens jusqu'à New York. Le New York Times réclame que le président applique des mesures fortes contre les ouvriers. Le président Wilson finit par envoyer la troupe contre les mineurs de Ludlow. 14 mois de lutte, 66 morts au total. Pourquoi ? À cause du sacro-saint principe de Rockefeller, ne pas leur laisser croire que la révolte, ça peut marcher. La répression contre le IWW est de plus en plus violente. Les leaders Woobly sont harcelés, ils se font massacrer. Un des plus fameux, c'est Joe Hill, un gars qui a écrit des dizaines et des dizaines de chansons. En novembre 1915, à Salt Lake City, Joe Hill est accusé du meurtre d'un épicier au cours d'un cambriolage. Aucune preuve n'est fournie par le tribunal, mais Joe Hill est condamné à mort et fusillé malgré les protestations du monde entier. Avant de mourir, Joe Hill écrivit dans une lettre « Je meurs en rebelle jusqu'au bout des ongles. Ne perdez pas de temps à me pleurer, organisez-vous. » Que mon corps soit réduit en cendres et que la brise joyeuse l'emporte là au pouls des fleurs. Peut-être alors une fleur fragile reprendra vie et s'épanouira. Tel est mon dernier souhait. Bonne chance à tous.
Tac 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 à l'attaque tac tac tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre contre-attaque.